Bonjour, Frédéric Huttmann au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Carole Beffa. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Quand on vous reçoit, alors, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder, la composition, le piano, les films muets, vous accompagnez vos propres compositions, vos livres, notamment, il y a eu cette magnifique biographie de Ligeti, et puis j'ai eu le plaisir de vous recevoir à propos d'un livre écrit à quatre mains avec Cédric Villani. Enfin, alors, on pourrait aborder tellement de sujets. Là, on va s'arrêter à deux ou trois sujets aujourd'hui, notamment votre dernier livre, L'autre 20e siècle musical, paru chez Buchet-Chastel, et puis une édition que vous avez faite de textes de Camille Saint-Saëns pour les éditions Première Loge, des articles de Camille Saint-Saëns. Alors, Camille Saint-Saëns, c'est un peu comme vous, quoi. On se demande comment il fait parce que il a passé sa vie à composer, il a passé sa vie à voyager, il a passé sa vie, il a écrit je sais pas combien de milliers de lettres. Je crois que vous dites à un moment dans la préface qu'il en écrivait 20 par
C'est
jour.
ça.
Il a écrit je ne sais pas combien d'articles. Et les articles que vous publiez sur plein de sujets, sur des musiciens qui sont plus de son temps ou d'autres de son époque, comme Gounod ou Fauré ou Anton Rubinstein, c'est incroyable comment une capacité de travail, d'écriture, et puis avec des articles qui ont bien résisté au temps.
Ils ont bien résisté au temps, tout à fait. En fait, Saint-Saëns, c'est vraiment le génie polymathe, et d'ailleurs un enfant prodige, quelqu'un qui se met au piano à 3 ans, qui commence à composer tout de suite, qui se produit en concert quelques mois plus tard, et qui très vite a un répertoire considérable entre les doigts, au point que l'on dit que lors d'un concert qu'il fait quand il a 11 ans, il se tourne vers le public et demande laquelle des sonates de Beethoven le public veut qu'il exécute, et on cite une parmi la trentaine, et c'est bon, pas de problème, il s'exécute. C'est aussi quelqu'un qui, effectivement, écrivait. Il n'a pas simplement écrit sur la musique, d'ailleurs, il s'est intéressé à quantité de choses. Il fréquentait certaines séances de l'Académie des sciences. Il a lui-même écrit des papiers assez techniques sur des questions de cosmologie, d'astronomie. Il s'était intéressé aussi bien au droit de grève en Grande-Bretagne, qu'à la question de savoir si, en période de disette, il existe certains fruits dont on peut manger les racines et lesquels. Enfin, c'était vraiment un esprit universel. Il a beaucoup écrit sur les arts en général. C'était un grand amoureux de la langue française et de la littérature en général. Il a écrit sur Shakespeare, il a écrit sur Racine, il a écrit sur la prononciation du latin d'église, mais il a surtout beaucoup écrit sur la musique. Et on peut avoir comme ça plus de 50 ans de vie musicale qui sont condensés, rassemblés, résumés par sa plume.
Alors cette plume, elle est brillante, elle est très très agréable à lire. Il y a des passages particulièrement émouvants dans ce livre, notamment justement quand il parle d'Anton Rubinstein, ce génie du piano. D'ailleurs, Saint-Saëns, avec sa modestie, se met loin derrière, alors que c'était aussi un immense pianiste.
Tout à
Il
fait.
en parle de manière très très attachante,
Oui.
même assez drôle, parce qu'il dit à un moment que Anton Rubinstein lui balançait des partitions qui étaient même pas achevées, et il fallait qu'il se débrouille avec pour diriger l'orchestre.
Exactement. Il a deux alter ego qui sont tous les deux des génies du piano et des génies de la composition. C'est Liszt qui
Très belle page
consacre
sur
de très belles
Liszt.
pages, tout à fait, assez nombreuses. Et puis effectivement Anton Rubinstein, qu'il appelle d'ailleurs Antoine Rubinstein, et qui est le compositeur russe qu'il a bien connu. Ils se sont joués et dirigés mutuellement l'un l'autre. Et puis on voit que Saint-Saëns n'est pas du tout ce musicien chauvin, recroquevillé dans son monde et dans un hexagone trop étroit pour lui, mais c'est au contraire quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'autre, à l'étranger, qui était, comme vous l'avez dit, un très grand voyageur, et il s'intéressait autant qu'il pouvait aux compositeurs des autres pays, qui eux-mêmes étaient souvent de très grands voyageurs.
Alors voilà, vous parliez de Liszt, il y a de très belles pages justement qu'il écrit à une époque fin du 19e, il y a encore des préjugés à l'égard de Liszt et de sa virtuosité. Lui, il en parle comme d'un compositeur, notamment de pages orchestrales. Il parle de la Dante symphonie, Fausse symphonie ou bien d'autres œuvres pour lesquelles Liszt n'était pas forcément célèbre à l'époque en
C'est vrai.
France.
En règle générale, on peut dire que il ne s'est pas trompé, au sens où la postérité a eu plutôt tendance à corroborer ses prophéties. Il arrive parfois qu'il rate certains grands compositeurs. Alors, je ne le mentionne pas simplement en introduction, je ne me suis pas attaché aux pages où il déverse son fiel sur Debussy ou Ravel, par exemple, où il parle des cacophonies de Stravinsky, parce que ça ne me semblait pas tellement intéressant. Il faut remarquer qu'en règle générale, en revanche, quand il porte un compositeur, un musicien au pinacle, on peut dire que l'histoire lui donne raison. Et il arrive aussi qu'il sache reconnaître ses torts, ses erreurs.
Comme pour Offenbach, par
exactement.
Exemple.
Pour Offenbach, je me suis permis de citer deux grands articles qu'il lui consacre. Un premier, très peu de temps après sa mort, où il se hasarde à prophétiser le fait qu'on n'écoutera plus la musique d'Offenbach dans quelques années. Et puis un autre, quelques années plus tard, où il se rend compte qu'il a eu tort. Et il explique ce qui fait le génie d'Offenbach, qui est ce mélange assez singulier d'esprit français venant d'un compositeur allemand. Une chose qui n'a pas tellement à voir avec l'harmonie. Il reconnaît que Offenbach n'est pas un grand harmoniste, mais une certaine façon bien singulière d'adapter le fond et la forme en musique, un certain sens de la concision que Saint-Saëns pouvait faire sien dans certaines de ses pièces. Enfin, bref, toutes choses qui font que le regard un peu énervé, un peu goguenard, et qui manquait peut-être d'humilité qu'avait Saint-Saëns au lendemain de la mort d'Offenbach, s'est transformé en un regard rétrospectif beaucoup plus attachant, beaucoup plus bienveillant finalement.
Mais vous, qu'est-ce qui vous a attiré, Carole Beffa, dans le fait de faire éditer ces articles, de les sélectionner, de les annoter, en plus avec des annotations très précises, parfois même vous mentionnez des erreurs qu'il commet sur certaines orchestrations.
Voilà, il peut y avoir des toutes petites erreurs sur certains points, il y a quelques confusions dans les dates, il y a des choses aussi, par exemple, il s'agit essentiellement de compositeurs, mais certains articles portent d'abord sur Saint-Saëns lui-même, sur son enfance. Il l'a peut-être
c'est
un tout
émouvant,
petit peu,
ouais,
c'est très émouvant. Il a peut-être un tout petit peu enjolivé, mais on voit le prodige qu'il était. Il y a ce regard effectivement tendre qui porte sur le petit garçon puis l'adolescent qu'il a été. Et puis il y a quelques pages que j'ai voulu sélectionner aussi qui portent sur Victor Hugo. Victor Hugo, qui pourtant n'était pas et ça Saint-Saëns le dit volontiers, un grand spécialiste de musique, mais qui a un rapport important avec les compositeurs, parce que beaucoup des compositeurs du temps de Saint-Saëns l'ont mis en musique, et pour d'autres raisons que le lecteur pourra découvrir. Donc j'ai voulu faire comme ça une sélection qui soit d'une certaine façon en trois parties, les anciens, ceux que Saint-Saëns a parfois connus mais qui sont morts bien avant lui, les contemporains et puis des varias où il est aussi bien question de Wagner, du rapport au wagnérisme, toujours très complexe chez
oui,
Saint-Saëns.
Justement, alors il parle de ses fameuses critiques, il y a des choses très intéressantes sur le progrès en art, mm-hmm. parce que lui il dit qu'il n'y a pas de progrès en art,
tout à fait.
Il y a un progrès technique, mais l'art, un chef-d'œuvre, ça reste un chef-d'œuvre 2000 ans après.
Oui. Enfin, c'est la raison pour laquelle on peut faire de Saint-Saëns un pas tellement un néoclassique, la chose se dit assez peu en son temps, il faudra attendre les années 20 pour qu'on parle de néoclassicisme, mais un classique parmi les romantiques, un classique un peu égaré. C'est pour ça que c'est assez curieux que Saint-Saëns n'ait pas eu plus d'estime, voire d'admiration, pour un compositeur qui, comme lui, était un pianiste, un génial pianiste, et qui était lui aussi un classique égaré chez les romantiques, je veux dire Brahms. Il y a aussi un certain nombre de compositeurs dont Saint-Saëns ne parle pas. Tchaïkovski, donc, qui partage pourtant parfois un certain sens du pathos, mais il faut croire que ce pathos chez Tchaïkovski se trouve lorsqu'il est métamorphosé par la plume de Saint-Saëns, empreint d'un certain rigorisme, d'un certain sens des carrures, d'un certain sens des symétries aussi, chose que Tchaïkovski ne privilégiait pas nécessairement. Il a du mal avec le gigantisme de Bruckner, il a du mal avec le gigantisme de Mahler, donc il dit qu'il aimerait bien pouvoir l'apprécier, mais ça n'est pas vraiment le cas. Bref, ses goûts transparaissent aussi un peu à travers ses manques et parfois même ses dégoûts.
Enfin, vous parlez de Brahms. Brahms, c'est vrai qu'il a été confronté à cette image traditionnelle, classique, mais en même temps, il a été loué par des compositeurs comme
Tout à
Schoenberg.
fait.
Et le dernier Brahms, quand même,
Ouais.
trouve sa continuité chez les compositeurs du XXe
C'est
siècle.
vrai. En tout cas, c'est la thèse de Schoenberg qui parle de Brahms le progressiste dans un article assez célèbre où Schoenberg s'interroge sur les compositeurs qui l'ont précédé et dans quelle mesure ils ont pu l'influencer. Alors, il peut y avoir aussi bien Bach que Mozart, Beethoven évidemment, mais qui n'a pas été marqué par Beethoven au 19e siècle et un peu après. Et puis il y a Brahms, effectivement. Schoenberg, chez Brahms, voit l'homme des carrières irrégulières, l'homme qui de temps en temps va insérer une carrure par cinq mesures dans un ensemble de quatre mesures. C'est vrai que Brahms aurait pu être un compositeur que Saint-Saëns aurait pu apprécier, d'autant plus que sur la question de la musique à programme, on est un tout petit peu à front renversé. Saint-Saëns est un compositeur qui a écrit quantité d'œuvres qui sont des poèmes symphoniques, comme son ami Liszt quelques années avant lui. On ne sait pas trop pour autant s'il se situe plutôt du côté des compositeurs qui croient en une musique qui exprimerait quelque chose ou compositeurs qui croiraient en une musique pure, une absolute musique, comme on dirait en allemand. Et effectivement, le voisinage avec Brahms aurait pu faire penser que Saint-Saëns, qui lui aussi écrit des symphonies qui ne portent pas de sous-titres, aurait pu croire en amateur de sonates, en amateur de quatuors, en amateur de formes pures, en ces formes pures. Mais il est en fait assez surprenant et il n'est pas toujours là où on l'attend. Son rapport à Wagner est d'ailleurs assez intéressant de ce point de vue, c'est-à-dire que Saint-Saëns n'est pas au début un anti-wagnérien, loin s'en faut. Il reconnaît le génie de Wagner. Wagner, de son côté, est époustouflé par le talent de pianiste, de chef d'orchestre et évidemment de compositeur de ce rival français. Et puis les relations vont un tout petit peu s'envenimer. En réalité, c'est plutôt le wagnérisme, cette secte, cette religion.
Oui, qui pense qu'avant lui, il n'y avait rien. Et
Exactement, c'est ça la cible
c'est
de
le
Saint-Saëns.
messie de la musique.
Tout à fait. Et ça, il ne le supporte pas tellement parce que. Je ne sais pas si on peut dire que c'est parce qu'il n'aime pas lui-même les clans, les chapelles, les camps. Lui-même a fait partie d'un camp important qui voulait défendre la musique française après le désastre de Sedan, qui était la Société nationale de musique. Mais dans cette Société nationale de musique se trouvent aussi des franquistes qui ont cette ambition curieuse de vouloir régénérer la musique authentiquement française en faisant appel à un modèle authentiquement allemand, qui est Wagner, avec toutes les contradictions que ça peut impliquer. Et c'est à ce moment-là justement que Saint-Saëns se fâche un peu avec eux et décide de poursuivre son bonhomme de chemin.
Vous parliez de Beethoven, Carole Beffa, ce qui nous permet d'aller vers votre livre, livre dont vous êtes l'auteur unique. Vous ne partagez pas cette affiche avec Saint-Saëns. L'autre XXe siècle musical vient de paraître pour Buchet-Chastel, où vous parlez un peu peut-être de vos coups de cœur du XXe siècle. Parmi vos coups de cœur, il y en a des inattendus, comme tout le monde doit vous le dire, comme Vladimir Cosma, on pourra en parler.
C'est vrai.
Mais vous parlez de Beethoven, justement, dans des termes. Enfin, vous avez des termes assez mesurés à l'égard de Beethoven.
Oui, alors c'est vrai qu'en introduction, j'essaie de faire une espèce de généalogie, que j'espère pas trop pompeuse, de mon goût
Non, non,
musical.
rassurez-vous.
Et ce faisant, je parle des très grands compositeurs que j'ai admirés d'emblée, Bach d'une part, Mozart de l'autre. Et je dis à propos de Beethoven que, même s'il y a des œuvres que je trouve absolument sublimes, de temps en temps avec lui, je suis un tout petit peu perplexe parce que j'ai l'impression que la frontière entre le sublime et le pompier est une frontière ténue. Alors oui, ça fait que j'ai un regard peut-être parfois un tout petit peu critique. Le livre, comme son titre l'indique, L'autre XXe siècle musical, ne parle pas tant que ça de Beethoven, mais c'était l'occasion de commencer par une espèce d'aperçu, de façon de savoir comment ce goût s'est construit. Dans mon cas, ça s'est fait de façon assez accidentelle, c'est-à-dire que dans la médiathèque de quartier où j'étais, rue Mouffetard, eh bien, j'ai décidé un jour de commencer à emprunter un à un, de façon presque systématique, presque trop systématique, les disques de A, comme Adams. Alors c'était pas Z, c'était X comme Zenakis. C'est comme ça que je me suis fait mon goût musical et j'ai essayé d'apprécier des compositeurs dont on me disait que c'était des grands compositeurs, par exemple Boulez, par exemple Stockhausen, par exemple Xenakis, et je dois dire que ça ne marchait pas très bien. En revanche, j'ai tout de suite eu un certain nombre de coups de foudre pour Olivier Messiaen, pour Krzysztof Penderecki, grand compositeur polonais qui est mort il y a 2 ans. D'autres encore dont il est question dans ce livre, par exemple Steve Reich, par exemple John Adams.
Et puis il y a Ligeti, dont vous avez écrit la biographie, mais alors vous le mentionnez de manière épisodique dans cet autre XXe siècle, mais il n'a pas une place centrale.
Non. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'entends par l'autre XXe siècle? J'entends certains compositeurs qui sont en règle générale beaucoup joués, beaucoup défendus par les interprètes généralistes, qui sont beaucoup enregistrés.
Comme Poulenc, par exemple.
Poulenc en est l'exemple même. J'aurais pu parler, ça sera peut-être l'objet d'un prochain livre, de Chostakovitch, de Britten, de Chimanovski, dont il y a simplement quelques mentions. Mais je parlais de compositeurs qui, jusqu'à une date récente, malgré le fait qu'ils étaient massivement joués et
Oui, comme
enregistrés,
John Adams, par exemple.
c'est évidemment le cas de John Adams ou encore de Steve Reich, peut-être dans une moindre mesure, et bien malgré cela, figurait jusqu'à une date récente, plutôt en note de bas de page dans les histoires de la musique ou dans les manuels officiels, sous prétexte qu'il n'avait rien apporté à l'évolution du langage musical. Et je conteste cette idée qu'il puisse y avoir une vision aussi unilatérale et aussi univoque de l'histoire de la musique, vision qui d'ailleurs, on peut le souligner, hein, est en très grande partie héritée d'Adorno, et d'un certain hegélianisme appliqué aux arts. Dans cette vision très historicisante, vous avez une immense autoroute qui part de Bach, qui passe par Beethoven, raison pour laquelle je le mentionne quand même au début, par Wagner assurément, puis par Schoenberg, par Webern, et qui irait jusqu'à Boulez ou jusqu'à Stockhausen. Vision assurément très intéressante, très allemande aussi, même si j'ai cité Boulez. Mais qui oublie certainement d'autres routes plus vagabondes, plus buissonnières, chemins de traverse qui ne sont pas cette grande autoroute de l'histoire de la musique, mais qui sont à mon avis tout aussi intéressantes par l'occasion qu'elles donnent de se confronter à des compositeurs qui ne s'inscrivaient pas nécessairement dans cette logique d'une évolution stylistique univoque. Et c'est, je crois, la richesse du paysage de la musique du XXe siècle que de faire que l'on puisse s'attarder aussi bien sur une petite mélodie de Millau comme Henri Dutilleux l'avait fait lorsque il m'avait donné une forme de cours de composition. Il insistait sur le fait que Millau avait un certain sens de la miniature dans certaines de ses pages les plus simples, sans jamais qu'il y ait simplisme. Donc ça peut être ça, quelque part, ça peut être un cœur particulièrement euphonique et en même temps imaginatif chez Kodály, Zoltán Kodály, un compositeur à qui je consacre un chapitre, qui est très connu en Hongrie, un peu moins en dehors des frontières hongroises. Donc il y a une part évidemment de subjectivité dans cet autre XXe siècle musical, mais je crois qu'en règle générale, je parle de compositeurs que n'importe quel mélomane généraliste sans a priori devrait pouvoir apprécier.
Alors, votre livre s'ouvre non pas par un musicien, mais par un écrivain, Marcel Proust, de même que le livre de Saint-Saëns ne se termine pas par un musicien, mais se termine par un écrivain, Victor Hugo. Pourquoi vous avez voulu commencer par Proust? Vous le dites d'ailleurs, dans votre livre.
Alors, il y a effectivement à part, hein, vous avez raison, c'est un prélude. Il y aura aussi quelques interludes. Pourquoi Proust? Parce que je pense que c'est une façon de prendre congé du wagnérisme. Proust, vous le savez, était un très grand amateur de Wagner, à qui il a consacré des pages stupéfiantes et souvent extrêmement sagaces. Mais on aurait du mal à déterminer qui est Vinteuil, ce compositeur dont il est tant question dans la recherche, et qui emprunte certains de ses traits à Saint-Saëns. D'autres à Fauré probablement, à Franck, à Debussy aussi peut-être, et certainement à Wagner pour cette question de l'épiphanie musicale, la découverte de ce que peut être le cœur de la musique, en passant par un monde des apparences, un monde des phénomènes qui n'est pas encore l'essence de la musique. Parler de Proust, c'était aussi revenir sur ces 2 années qui étaient si importantes pour Proust et Reynaldo Hahn, qui étaient amants et qui sont restés jusqu'à la mort de Proust de
Très
très grands
amis.
amis. Alors Reynaldo Hahn, voilà un compositeur un peu oublié, mais que fort heureusement on redécouvre depuis, je dirais, le début des années
Oui, il y a une
2000.
grande biographie de Philippe Blais qui vient de paraître. D'ailleurs, Philippe
Tout à
Blais que vous
fait,
citez.
que je cite abondamment, et qui est un très grand spécialiste de Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn, c'est un compositeur assez singulier parce que il est capable d'écrire aussi bien des mélodies légères. Certaines des mélodies de Hahn que l'on joue, que l'on chante beaucoup aujourd'hui, sont celles d'un jeune compositeur d'une quinzaine d'années. Mais c'est aussi un compositeur de comédie musicale ou d'opérette, on ne saurait pas trop dire lequel des deux, toujours incroyablement inventive, où les trouvailles sont légion, où le sens de la légèreté et l'esprit tout simplement qui court avec profusion est quelque chose d'absolument admirable. Et à côté de ça, c'est aussi compositeur de quatuor à cordes, d'un sublime quintette pour piano et quatuor à cordes, et d'œuvres plus sombres, plus profondes, entre guillemets, si tant est que le léger doivent nécessairement s'opposer au profond. Reynaldo Hahn, c'est aussi quelqu'un qui d'ailleurs était aussi bien un interprète qu'un chanteur, un professeur de chant, il a enseigné l'art vocal, qu'un chef d'orchestre, qu'un écrivain de musique, quelqu'un qui a tenu la rubrique de critique musicale au Figaro pendant longtemps et qui a écrit dans quantité d'autres journaux avec une plume toujours d'une incroyable élégance, toujours exquise. Ça fait partie de ces hommes orchestres ou de ces femmes orchestres qui m'ont intéressé. Pourquoi je dis femmes? Parce que un chapitre ultérieur est justement consacré à deux grandes sœurs de l'histoire de la
Nadia et Lili
musique.
Boulanger.
Exactement. On redécouvre fort heureusement, en grande partie grâce à la vogue féministe, l'œuvre de Lili Boulanger qui n'a jamais tombé dans l'oubli. C'est la compositrice dont on peut dire que pendant tout le XXe siècle, notamment grâce aux efforts de sa sœur Nadia, était connue des mélomanes. Ça fait pas partie de ces compositrices qu'on redécouvre totalement aujourd'hui, comme Mel Bonis par exemple, ou même comme ces compositrices qu'on ne connaissait surtout que parce qu'elles étaient la sœur d'un grand
Ah
compositeur
oui,
ou
Fanny
la femme
Mendelssohn ou
d'un...
Clara Schumann.
Exactement. Lili Boulanger était assurée d'avoir sa place dans un certain panthéon musical. C'est d'ailleurs pas tellement à elle que je m'intéresse, même si j'essaie de caractériser son style et je donne un aperçu de sa vie incroyablement touchante et poignante. Cette femme morte à 24 ans et qui fait le désespoir de sa sœur. Je m'intéresse à Nadia parce que Nadia, on connaît pour le coup très mal sa musique, même si quelques tentatives ont été faites assez récemment. Je parle de mon ami Joan Fargeau qui
Enfin, un
a...
très beau disque, j'ai eu l'occasion de le recevoir. Sisters,
Exactement.
avec des œuvres inédites.
Des deux sœurs
Ouais.
et d'autres se sont intéressés à cette musique. Nadia, donc, elle est connue assurément comme cette immense pédagogue au XXe siècle qui a pu avoir comme élève aussi bien Bernstein que des compositeurs dont on ne pensait pas
Quincy Jones
forcément
ou Astor
exactement.
Piazzolla ou
Voilà.
Copland,
Ouais.
très
Donc,
divers.
très divers, qui sont pour certains d'entre eux à la frontière entre musique savante et musique populaire. Et puis c'était aussi une écrivaine de musique, si j'ose dire. C'était aussi une fabuleuse pianiste, organiste, chef d'orchestre, organisatrice de concerts. Enfin bref, sa longue vie a été très bien remplie.
Alors votre autre XXe siècle musical, on ne peut pas énumérer tous les compositeurs que vous évoquez, mais vous terminez de manière assez inattendue par Vladimir Cosma. Alors on pouvait se dire, si Carole Beffa veut prendre un musicien dont le nom est attaché au cinéma, il pouvait prendre des gens plus consensuels, des génies comme Bernard Herrmann ou Nino Rota ou d'autres. Vous l'évoquez au fil de quelques pages, Nino Rota, mais lui consacrer un chapitre à des compositeurs comme ça dont la notoriété façon est inattaquable des grands génies dont l'ont été liés à Fellini ou Hitchcock, comme Bernard Herrmann. Non, vous avez choisi Vladimir Cosma, dont le nom est lié à Gérard Oury,
Tout à
Claude
fait.
Zidi, d'autres metteurs en scène de comédies, de grandes comédies qui ont énormément de succès. C'est parce que vous vouliez quoi montrer tout le travail qu'il y a derrière ces
Oui.
musiques, ces compositions qui apparemment sont faciles à fredonner, comme la musique du Grand Blanc avec une chaussure noire. D'ailleurs, vous montrez la difficulté qu'il a eu à trouver cette musique.
Alors,
Vous vouliez réhabiliter un peu.
oui, le réhabiliter, c'est vrai que Cosma n'est probablement pas dans le panthéon de la plupart d'histoires de la musique.
Bah, quand on pense à Cosma en histoire de musique, on pense à l'autre avec un K,
Exactement, je penserais
Joseph.
plutôt à Joseph, très grand compositeur aussi, évidemment. Il y avait peut-être un peu d'esprit de provocation à effectivement consacrer tout un chapitre à Cosma. Autant le chapitre sur Proust était un prélude, autant celui sur Cosma était un postlude. Ce que je voulais effectivement, c'était montrer, comme vous l'avez dit, que ce compositeur au métier impeccable est capable de trouver les ingrédients qu'il faut pour un tube. Et des tubes dans la musique de Cosma, il y en a à foison. Donc c'était ça, c'était aussi pour moi l'occasion de rappeler quelques souvenirs assez personnels. Il se trouve que
Quand vous
quelques.
avez joué le fils de Lino Ventura dans La Septième
Tout à
Cible,
fait,
dont
qui
il a fait la
sont.
musique, ça je m'en souvenais plus, Carole Béfa, en lisant ces pages.
Donc
Oh, je suis impressionné, vous avez côtoyé Lino
c'est
Ventura.
vrai. C'était son dernier film, il était déjà assez malade.
Il était comment? C'est une
Très.
parenthèse qui n'a rien à voir avec le reste,
Bon, il
mais.
était extrêmement sympathique avec moi, toujours très amical, paternel, on peut dire, dans les deux sens du terme. Bon, c'est un souvenir que je conserverai à jamais. Je n'ai pas croisé, me semble-t-il, sur le tournage Vladimir Cosma, mais ça n'a pas forcément très surprenant. En
Oui, parce
règle
que les
générale,
compositeurs
le
souvent
compositeur
vont
n'est
pas
pas
sur le
là
tournage.
avec l'équipe technique. Mais je me souviens en revanche de cette musique qui est rapidement devenue une musique suffisamment forte, intéressante intrinsèquement pour faire l'objet de concerts indépendamment du film lui-même. C'est ce qu'on a appelé le concerto de Berlin. Et effectivement, ce concerto de Cosma est aujourd'hui joué de temps en temps par certains des plus grands violonistes. Alors, voilà, Cosma, c'était l'occasion de rappeler tout ça. Et puis.
Moi, ça me l'a fait voir sous un autre visage, je vous le dis en toute franchise, de Carole Béfa. Évidemment, on adore la musique de Rabbi Jacob et d'autres musiques, mais c'est vrai que cette manière de le mettre en valeur via son travail de compositeur donne un autre éclairage et abat quelques préjugés que j'avais. Et alors, on va venir à propos de compositeur. On n'a pas parlé de vous, Carole Béfa, parce que là, cet entretien est consacré à ces deux livres, l'un consacré à Saint-Saëns et l'autre à votre autre 20e siècle musical. Mais bien sûr, votre travail de composition continue. Notamment cet été, il y aura un quatuor qui sera
Tout à
créé
fait.
dans le délicieux festival de Cosne-Minervois,
Voilà.
fin août, dans ce lieu magique. Donc, qui sera joué par un. C'est quoi? C'est le quatuor Hermès ou c'est l'autre quatuor?
Non,
Parce qu'il y aura deux quatuors.
c'est bien Quatuor Hermès, oui, qui en est, qui en sera le créateur. Donc c'est une commande conjointe de ce festival et du festival de Fonfroide, à quelques dizaines de kilomètres de là. Le quatuor va être créé à un jour de distance aux deux endroits. Je suis en train de le terminer. Ça va être un quatuor en plusieurs mouvements assez brefs, très contrastés, je crois. Alors, le quatuor Hermès, c'est un quatuor fabuleux. Il peut jouer absolument tout.
Oui, ils ont livré un disque Schubert merveilleux.
Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion de les découvrir à l'occasion de la création d'un quintette avec clarinette qui va être d'ailleurs rejouer au festival de Fonfroide dont je serai le compositeur invité. Ce sera le quatuor Hermès et Pierre Génisson à la clarinette. Donc voilà, c'est effectivement toujours une chose délicate pour un compositeur de s'attaquer
C'est ce qu'il y a de, oui, c'est ce qu'il y a de
à.
plus difficile, le quatuor.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors, certains des compositeurs dont je parle s'y sont attaqués très tard. C'est le cas de César Franck, qui a dû attendre plus de 60
Forêt
ans, si je ne
aussi.
m'abuse. Forêt, évidemment, une de ses œuvres les plus énigmatiques, presque décharnée, sans être pour autant désincarnée. J'ai déjà écrit un premier quatuor, qui était un hommage à Berg, il y a longtemps, c'était au siècle dernier, en 98, et puis plus récemment pour le feu, le quatuor Capuçon, en 2008, un assez long quatuor d'une vingtaine de minutes qui a été créé à Madrid. Mais là, c'est l'occasion d'essayer de revisiter et de voir l'extrême variété que l'on peut obtenir de cet ensemble de quatre instruments qui sont pourtant extrêmement proches et parents les uns des autres.
Et puis, il vient de paraître un disque interprété par le violoniste Grégoire Girard et le pianiste César Birchner, un Français à Rio. Il rend hommage à Poulenc, Villa-Lobos, Georges Auric, Darius Milhaud. Et vous avez composé une œuvre, un Français à Rio pour violon et piano, qui est un hommage à la fois à Poulenc, Villa-Lobos, Milhaud, Honegger et Auric, compositeurs que vous auriez pu mettre, enfin vous le faites d'ailleurs pour partie dans votre livre,
tout à fait,
à l'honneur.
Dans un des chapitres du livre L'autre XXe siècle musical, je parle de la musique française des années 1920-1930 avec ce foisonnement de compositeurs. On pourrait être un tout petit peu d'ailleurs perdu dans le nombre de chapelles qu'il y a. J'essaie de montrer qu'il y a des courants, des proximités. Et ce disque a été effectivement pour moi l'occasion, à la demande et sur commande de ces deux jeunes interprètes, d'écrire pour violon et piano. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement quelques clins d'œil assez variés, là encore, à des climats. Il n'y a aucune citation littérale dans ces cinq mouvements qui forment un Français à Rio, mais une succession de clins d'œil. Donc, le titre lui-même, Un Français à Rio, est évidemment un clin d'œil à un Américain à Paris
de
de
Gershwin.
Gershwin, qui montre un peu ces musiques qui sont à la frontière entre musique savante et musique populaire. C'est le cas aussi des autres compositeurs que je mentionne, sauf peut-être Honegger, qui est plus résolument du côté de la musique savante. Mais j'ai voulu imaginer parfois certaines claudications qui font penser effectivement à des déhanchements, à des musiques chaloupées, comme on peut en trouver parfois à l'extérieur de l'Europe et dont les compositeurs que je cite ont pu s'inspirer. Ça peut être aussi parfois un bruissement, un fredonnement, quelque chose d'assez léger comme un souffle que les deux instruments viennent à incarner. Bref, c'est essentiellement la diversité que j'ai essayé de montrer à travers cette pièce, Un Français à Rio.
Carole Beffa, vous parlez de commandes, là on parlait de commandes du Quatuor pour le compte du Quatuor Hermès, cette création qui aura lieu au mois d'août prochain dans deux lieux magnifiques différents. Là, Un Français à Rio, c'est une création à la demande de Grégoire Girard et César Birchner. Est-ce que, sans citer d'exemple, on vous a parfois commandé des œuvres pour certaines formations? Moi j'avais entendu une œuvre pour l'Orchestre de Paris il y a quelques années. On vous demande une formation et vous n'y arrivez pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, sans citer d'exemple particulier, et la formation instrumentale ne correspond pas à ce que vous êtes à même de donner?
Alors non, en règle générale, je réserve ma réponse si jamais j'ai des doutes. Et normalement, si je dis oui, c'est bon, ça va aller. Mais c'est vrai qu'il y a certaines formations pour lesquelles, a priori, j'aurais peut-être un peu de mal à écrire. Je suis pas sûr d'écrire tout de suite un concerto pour tuba ou pour contrebasson, par exemple. Mais sait-on jamais, ça viendra peut-être. Où il y a des formations très éclatées qui sont parfois assez difficile à imaginer, où vous auriez comme ça, je ne sais pas, une percussion, un bois, un vent, un instrument à cordes, donc quelque chose qui jouerait, qui surjouerait, on va dire, l'émiettement, l'éclatement. Mais non, pour le moment, je touche du bois, je n'ai jamais ressenti ce problème de la page blanche, pour des raisons qui seraient exclusivement liées à la formation instrumentale.
En tout cas, on se félicite de cette future création pour Quatuor avec le Quatuor Hermès, et puis ce disque avec Grégoire Girard et César Birchner, qui est un programme délicieux vraiment, et qui se termine par votre œuvre Un Français à Rio. Donc je rappelle ces deux livres qui sont sortis à peu près au même moment, l'un l'autre, 20e siècle musical de vous, chez Buchet Chastel, Carole Beffa, et puis l'autre, Vous avez sélectionné, présenté et édité des textes de Saint-Saëns, Saint-Saëns au fil de la plume pour l'éditeur Première Loge. Deux livres absolument passionnants et cette découverte merveilleuse de ce Saint-Saëns écrivain, critique, très émouvant et qui écrit d'une manière très alerte et vraiment délicieuse à lire.
Merci,
En
merci
tout cas,
beaucoup.
il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.